France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous au programme aujourd'hui, la suite de l'émission que Claude Maupomet avait enregistrée avec le producteur de cinéma Daniel Toscan-Duplantier en 1981. Toscan, comme il fut familièrement surnommé, était un grand mélomane, passionné d'opéra autant qu'il l'était de cinéma. Et c'est de Bach dont il était venu parler dans les studios de France Musique. Parmi les légendaires interprètes de Bach que Daniel Toscan-Duplantier avait choisi de nous faire écouter, il y avait Pablo Casals dans deux enregistrements de 1938 et 1956 d'un extrait de la cinquième suite pour violoncelle seule. Daniel Toscan-Duplantier nous dira pourquoi il compare la sarabande de cette suite à une corrida. Voici pour l'heure un extrait de la cinquième suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, dans la version de 1938 interprétée par Pablo Casals.
Thank you. Voilà, nous écoutions à l'instant la sarabande jouée en bis en octobre 56 par Pablo Casals. Et avant, nous avons entendu la cinquième suite pour violoncelle en ut mineur, prélude allemande courante et cette sarabande qu'il avait enregistrée en 38. Et Daniel Toscan du Plantier, vous disiez que c'était pour vous le sommet, ces suites.
Oui. Oh, c'est le sommet de la musique, c'est aussi le sommet de la vie d'un homme. Je veux dire, il y a quelque chose dans cette... Enfin, on est partagé entre admiration pour l'œuvre, et puis cette incroyable appropriation d'une œuvre par un artiste. Avec cette dernière sarabande, qui est comme... comme une scène d'amour dans un film japonais, je veux dire. C'est quelque chose... C'est presque gênant, je veux dire. C'est tellement... On entre à l'intérieur d'une
oui,
vie.
Oui, c'est un petit peu indiscret.
On se sent presque voyeur. On regarde par le trou de serrure quelque chose qui est plus qu'à lui. Et cette sarabande qui est la chose la plus simple du monde. C'est un exercice pour se réveiller le matin. C'est pour se faire les doigts, pour chauffer l'instrument. Et que d'un seul coup, ça devient toute la musique du monde. Et puis... Ce sentiment inouï qu'on a avec Casals, qu'il est enfoncé dans le sol, que ce paysan catalan rejoint Pablo Picasso et les siens dans cette même... C'est le même physique que Picasso, hein, cette nuque forte et que plantée dans le sol et face à la mort, comme ça, avec cette culture de la mort qui est propre à l'âme catalane. Et que là, d'un seul coup, il plante Bach face à la bête. On sent que dans c'est une corrida, cette sarabande la plus sereine du monde... Sans un vibrato, sans un rubato, sans l'ombre d'une tentative d'expression musicale, les notes, rien que les notes.
Et les notes justes.
Les notes justes.
Impeccablement.
C'est en même temps le combat. Mmh. C'est le combat le plus sévère, le plus intense et peut-être aussi le plus violent. C'est pas étrange d'appliquer cet adjectif à une œuvre aussi lisse. Mais en tout cas, ce qui arrive à Casals dans cette œuvre et ce qui lui fait dire, et ce que Casals fait dire à l'œuvre et dans l'œuvre, on n'ajoute rien aux œuvres. On peut seulement tenter de leur faire dire un infime pourcentage du 100% qu'elles possèdent. Mais là, on a le sentiment qu'on est peut-être vers 80, comme ça. Hein. Alors, les autres sont à 30, mais on se dit que ce coup-là, il n'est pas loin du tout. Voilà. Mais évidemment, on disait tout à l'heure, 70 ans de fréquentation. Voilà. Et que c'est un homme poussé aux limites de l'humanité, au plein de l'humanité. Mais c'est les limites, c'est déjà un message de l'autre côté. On est informé, là. C'est pour ça qu'on a cette gêne, qui est probablement chez nous la gêne dans notre vie quotidienne d'affronter une réalité plus vaste et aussi plus inquiétante.
En tout cas, du point de vue discographique, c'est merveilleux d'avoir ça. Comme vous disiez, ce n'est pas simplement musical, c'est humain.
Oui, puis il faut imaginer, moi je connais bien tout le disque du concert, parce que le concert était un concert un peu mondain, n'est-ce pas, les Gîtes Forêts, les grands violoncellistes étaient venus, on devait leur mettre des médailles toutes les deux secondes. Bon, et d'un seul coup, dans cette salle, on imaginait quelques recteurs en tenue, la salle de la Sorbonne, vous la voyez, c'est pas un lieu religieux. On est plongé dans un univers de concentration physique, et dans physique, de si près de métaphysique. C'est physique et métaphysique. Et c'est justement la connexion du physique et du métaphysique qui est pour moi toute l'essence de Bach. Et là, on se dit que Casals est au cœur de ce que Bach est et de ce que nous cherchons à dire ce soir sur Bach. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, si Dieu existe, Bach, en tout cas, lui, y croyait.
Voilà. Passion selon saint Jean, le cœur final, par... le cantor de saint Thomas de l'époque, qui était Gunther Ramin, qui dirige Thomas Neurkor et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig.
Ben après, es ist vollbracht, le tout est accompli, qui est bien notre sarabande. C'est le cœur de l'apaisement, c'est la sérénité. Je crois qu'il était même nécessaire après notre Casals.
Thank you.
Nous écoutions le chœur final de la Passion selon saint Jean, de Jean-Sébastien Bach, Thomannerchor, orchestre du Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Günther Ramin, qui était le Thomas Cantor.
Et l'héritier de Jean-Sébastien Bach. Oui. Et avec cette espèce de tradition chorale et cette simplicité. Je veux dire, c'est une œuvre sans commentaire, c'est une œuvre apaisante. C'est la fin d'un long parcours, hein. C'est la fin de la Passion. Voilà, on vient de tuer le Fils de Dieu, alors il faut s'apaiser en attendant les certitudes. Et c'est une œuvre lisse, comme ça, qui vient au-delà des choses. Là, on rejoint une tradition, la tradition archaïque, la tradition de la plénitude.
Daniel Toscan-Duplantier, vous êtes très fidèle à vos goûts depuis longtemps, ou bien vous faites des découvertes. D'abord, est-ce que vous avez le temps? Je sais que maintenant, on ne va pas trop en parler, mais des activités qui vous rapprochent beaucoup de la musique depuis déjà un certain temps, depuis Don Giovanni, et qui ne font que s'accentuer. Mais quelle est la part de votre temps pour la musique?
Elle est assez considérable, parce que comme c'est une partie de mon métier, je peux toujours me glisser un petit 10 sur le plateau dans les heures de bureau. Surtout si c'est...
Oui, mais vous n'avez peut-être pas toujours obligatoirement affaire à ce que vous souhaitez, à ce qu'est votre goût profond.
Vous savez, j'essaye toujours de rapprocher au maximum mon activité de mes goûts. Parce que, étant trop paresseux pour travailler, j'ai choisi de faire de mes passions des métiers. Et que c'est vrai que j'exerce ma passion comme un métier. Alors finalement, moi, j'ai Jean-Sébastien Bach à l'heure du bureau. C'est-à-dire que j'aurais pas compris d'attendre le soir ou le week-end pour faire ce que j'aime. Alors oui, je fais du cinéma et de la musique et je le fais bien plus de 40 heures par semaine, croyez-moi. Mais c'est plus facile parce que, par exemple, le soir, glisser du bureau au concert, c'est toujours le travail. Le travail, toujours le plaisir. Donc j'ai cette satisfaction-là. Bon, avec aussi les difficultés, c'est que chercher à faire vivre une économie industrielle sur ses propres goûts, lorsqu'ils sont ceux-là, ce n'est pas évident. Et que je suis obligé de dépenser beaucoup d'énergie pour les rendre communicatifs, mes goûts.
Oui, cela dit, c'est une passion très partagée tout de même, ça.
Oui.
Par beaucoup de gens, non? On ne se trompe guère avec Bach, franchement. Tout le monde en a
oui,
besoin.
Oui, enfin, beaucoup de gens, c'est-à-dire que sur l'ensemble des consommateurs du monde, pour la critère économique, c'est un... Je ne sais pas, un ou deux points de pourcentage. Hein.
C'est vrai?
Oui. Je veux dire qu'on vit dans un continent, l'Europe, et dans un pays, la France, où la musique, contrairement à ce qu'on pense, est une chose très partagée. Et
oui.
Par exemple, aux États-Unis, où je suis souvent pour mon travail, c'est moins évident. Je veux dire, une antenne comme la nôtre, sur laquelle nous parlons, n'a pas d'équivalent. Parce qu'il existe des antennes de musique classique, mais enfin, disque sur disque. Je veux dire, l'idée même qu'on en parle, c'est une idée étrange. L'idée de la parole et de la musique, et de la musique comme œuvre, comme expression.
Vous remarquez que c'est le vœu de beaucoup aussi. Alors on va se taire et écouter la chaconne de la deuxième partita en ré mineur, BWV 1004, par Yehudi Menuhin. Vous voulez que nous l'écoutions et après...
Encore un maître. Oui, je crois qu'il faut l'écouter d'abord.
Thank you. Thank you.
La chaconne de la deuxième partita en ré mineur, BWV 1004 de Bach par Yehudi Menuhin. Daniel Toscan du Plantier, vous n'avez pas choisi les moindres des œuvres. Hein. Nous sommes sur les sommets depuis le début de ce programme.
Bah, tout à l'heure, on disait en parlant de Hisha Begnoug que c'était la première vague de l'océan de la musique allemande. Eh bien voilà, un vibrato bien latin cette fois et une espèce de virtuosité lumineuse et en même temps de cathédrale, parce que c'est un mélange de Paganini et de Bach, bien sûr. Et que s'il y a une œuvre génialement structurée, c'est cette chaconne diabolique, où les fugues s'enchaînent l'une derrière l'autre et qu'on est perdu dans un labyrinthe de contrepoints d'une subtilité incroyable. Mais ce qui me paraissait intéressant, c'était... Bah, l'incroyable diversité et constance de la diversité de Bach qui fait que on peut voler presque sur 3 siècles de musique avec lui, puisqu'il y a tout est en place. Tout est en place de ce qu'il y a derrière lui, tout ce qui est en place de ce qu'il y a devant lui. C'est une espèce d'analyste fondamental. C'est un, C'est une vision du monde, comme on dit dans la philosophie allemande, n'est-ce pas, la Weltanschauung, c'est global, c'est, tout est là, et c'est évidemment, ce brave père de famille était un cerveau dont on aimerait connaître même les données physiques. C'est une machine de type Einstein.
Oui, c'est un cerveau et un corps, ce qui est bien agréable quand même dans la musique aussi, c'est de sentir.
Sensualité
constante. La pulsation.
Plaisir, cette fois, avec la chaconne.
Et alors, ces œuvres que nous avons entendues, et même celles qu'on va écouter pour terminer, sont des œuvres vraiment qui nous sont très familières. Et chaque fois qu'on les entend, Dieu sait, on les entend, on les admire autant, plus même chaque fois.
Je dois vous dire que quand nous avons parlé ensemble de cette idée de parler de Bach, j'ai essayé de me dire, on va essayer de passer ce qu'on ne joue jamais. Mm. Et puis très vite, je me suis dit que ce n'était pas possible de ne pas parler aussi de l'essentiel et qu'il fallait être simple. Et être simple avec Bach, c'est aller à l'essentiel. On préfère ça d'ailleurs pendant une vingtaine d'heures avec les œuvres essentielles de Bach.
C'est certain.
Et on va conclure peut-être avec l'essence de l'essentiel.
C'est-à-dire avec le... La fin de l'art de la fugue, qui sera interprétée par Marie-Claire Alain. Alors,
avec la fameuse fugue à trois sujets. Alors, j'ai choisi cette version parce que c'est exact. Vous savez que c'est un script qui s'est trouvé beaucoup plus tard et que j'ai dit script, il y a des formations de cinéma, manuscrit, qui s'est trouvé beaucoup plus tard et que c'est une œuvre écrite tout à fait à la fin de la vie de Bach. Il l'a d'ailleurs pas achevé. Il ne l'a pas achevé puisqu'il est devenu aveugle et qu'il est mort peu de temps après. Et le troisième sujet, qu'on entend très clairement à la fin, ils sont très distingués, puisque chacun, le premier a son développement, le deuxième a son développement, le troisième arrive, et les trois devaient terminer dans une seule apothéose. Mmh. Et le troisième sujet est fait, c'est qu'en allemand, les notes de musique sont l'alphabet, et le troisième, c'est B-A-C-H. Et dans une œuvre aussi objective, d'un cantor d'église, d'un chef de chorale, d'une église d'Allemagne du milieu de la première moitié du XVIIIe siècle, d'un seul coup, cette signature personnelle, dans la dernière œuvre, dans la dernière partition écrite, et même qui n'était pas faite pour être publiée, puisqu'elle n'était pas finie, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore le romantisme des symphonies inachevées, et que ça a été longtemps un défaut impardonnable que ça n'a pas achevé. Mais aujourd'hui, avec notre regard à nous, qui est peut-être un regard romantique, comment ne pas être bouleversé par le fait que les dernières notes écrites par un homme de cette ampleur, dans une vie d'une telle durée, c'était son nom. Et d'un seul coup, on arrive à cette conception moderne qui, au XVIIIe siècle, était en soi inimaginable, puisqu'un artiste, c'était un employé, c'était un employé d'une cour. Était-ce vraiment mieux que le chef de la cuisine? Pas sûr. Et d'un seul coup, il a signé. Il a eu cette conscience de ce qui allait commencer avec la fin du siècle, et surtout le 19e et le 20e, c'est la place prééminente de l'artiste. Et cet homme qui toute sa vie a dit « Dieu, Dieu, mein Gott », il dit « Bach » à la fin. Et peut-être qu'il nous indique la voie sur laquelle, au fond, la philosophie allemande allait faire ce retournement prodigieux qui était que Dieu, c'était l'homme. Cette information que Dieu, c'était l'homme, et cette information du plus humble des musiciens, mais du plus grand pour moi, qui d'un seul coup... Bon, ça serait le faire trop parler que de dire que Dieu, c'est Bach. Mais enfin, il a dit toute sa vie, Dieu, et il termine sur Bach.
C'était « Comment l'entendez-vous ?», une émission de Claude Maupomet qui recevait le producteur de cinéma Daniel Toscan-Duplantier. Cette archive de 1981 rejoint la collection des trésors de France Musique que vous pouvez tous réécouter ou podcaster sur le site radiofrance.fr ou sur l'application Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.